Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Noël Alouzi du Kabambi.
Le procès de l'opposant Seth Kikuni se poursuit au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Le tribunal a instruit hier la prévention d'incitation à la désobéissance civile. Pour le ministère public, l'opposant a provoqué la population en répandant des faux bruits de nature à l'alarmer, ce que conteste l'avocat de l'accusé. Dans ce journal, nous nous rendrons aussi au village de Samboko, territoire de Beni au Nord Kivu, qui renaît petit à petit malgré certains défis qui restent encore à relever. L'amélioration de la situation sécuritaire est due à la collaboration entre les FARDC et la MONUSCO, favorisant le retour des habitants, autrefois plusieurs fois attaqués par des rebelles des ADF. Lancement officiel ce jeudi dans la zone de santé de Mbanzangungu au Congo central de l'introduction du vaccin antipaludéen dans la vaccination de routine en RDC. Le coordonnateur provincial du programme national de lutte contre le paludisme au Congo central va en parler. Docteur Nono Koka sera notre invité à la fin de ce journal. Bonjour à tous. Au procès de l'opposant Seth Kikuni, le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe a instruit hier la prévention d'incitation à la désobéissance civile. Au cours d'une audience publique en foraine à la prison centrale de Makala, les juges ont confronté le ministère public et la défense sur l'acte matériel attestant la violation des lois de la République par les propos du président du parti Piste pour l'émergence devant ses partisans lors de son séjour à Lubumbashi. Réveillez-vous, bravez la peur, apprenez définitivement à dire non, ne laissez pas l'insécurité et la prédation devenir des normes ici. Tshisekedi a triché aux élections. Le prévenu a répété ses propos prononcés jadis devant ses partisans et il a affirmé que cela ne viole rien du tout et c'est la vérité d'après lui. Mais pour le ministère public, l'opposant a provoqué la population en répandant des faux bruits de nature à l'alarmer. Ce que rejette son avocat conseil, Maître Héritier Boulambo. Il est au micro de Jeff Ngoy.
Nous avons été contents de voir que le ministère public soit incapable de montrer en quoi les propos tenus par notre client qui avait dit au Katangé, à ses militants qui étaient venus l'écouter ce jour, que le Congo va mal, le Katanga va mal et que le peuple Katangé, le peuple congolais en général doit se réveiller et résister. Cela ne constitue nullement une quelconque infraction de la désobéissance civique parce que la désobéissance civique voudrait renvoyer à la violation de lois de la République, pousser des gens, provoquer des gens directement à violer les lois de la République. Le ministère public a été incapable de démontrer quelle est la loi que M. Seth Kikuni aurait poussé les militants qui étaient venus l'écouter à violer. L'infraction en réalité n'existe pas. Tout ce qui se passe dans ce procès relève de l'acharnement politique.
Notez que le 6 novembre prochain, le tribunal va instruire la deuxième prévention relative à la propagation des faux bruits. Il n'a pas accepté la demande de la défense consistant au rejet pur et simple des procès-verbaux d'audition de son client par l'ANR. Procès que le prévenu considère comme étant établi hors de toute norme car il est privé du droit d'accéder à ses avocats lors de sa détention. Trois ONG de défense des droits de l'homme, Justicia Asbel, IRDH, Institut de recherche en droits humains et CJR, Centre pour la justice et la réconciliation, alertent sur la situation de Kafuchi Tcheche, le chauffeur de Moïse Katumbi. Il a été arrêté depuis le 2 octobre dernier à Mulunde, dans le territoire de Kasenga, dans le Haut-Katanga. Pour ces trois ONG, son état de santé se détériore et il n'a pas accès aux membres de sa famille. Ils l'ont fait savoir le mardi au cours d'une conférence de presse à Lubumbashi. D'autres détails avec Timothée Mbouya de Justicia Asbel au micro de Jean Gando.
Les trois ONG ont suivi de près les péripéties de cette arrestation ou de cet enlèvement et s'inquiètent aujourd'hui de la détérioration de l'état de santé de M. Kafuchi, mais également de sa détention illégale et arbitraire qui ne fait que se prolonger. Nous alertons sur non seulement la dégradation de l'état de santé de Kafuchi, mais également nous demandons qu'il soit purement et simplement libéré parce que nous ne voyons pas les motifs pour lesquels on le détiendrait. Au cas où les services de sécurité pensaient qu'il y a des raisons pour lesquelles on le garderait, nous pensons pensons qu'il doit être déféré devant son juge naturel pour permettre à ce qu'il puisse avoir finalement accès à ses avocats, à ses membres de famille, même à ses médecins. Les garder dans cet état, ce n'est pas convenable et c'est en violation de lois qui régissent la République démocratique du Congo. Selon ce que nous avons appris, c'est qu'il aurait été trouvé sur la piste de Molonde où il aurait convoyé des matériaux de construction et on dit que le fait qu'il soit trouvé là-bas sur la piste est constitutive d'une infraction d'atteinte à la sûreté de l'État ou de complot contre l'État.
En Ituri, le gouvernement provincial et la Fédération des entreprises du Congo ont signé le mardi à Bunia un nouveau contrat pour la modernisation de la voirie urbaine. Les clauses de ce contrat prévoient la perception d'une taxe conventionnelle de 1 000 dollars américains par camion-citerne de carburant pour ces travaux. Les deux parties se disent satisfaites de la première phase de ce partenariat qui a permis d'asphalter environ 13 kilomètres de route dans la ville de Bunia. Isaac Raymond.
Avant la signature de ces nouveaux contrats, le gouvernement provincial et la FEC ont passé à revue la première phase de ces partenariats signés en 2019. Selon eux, les objectifs ont été atteints, notamment la mobilisation et la canalisation des fonds estimés à des millions de dollars, sans en déterminer les montants, ce qui a permis d'asphalter jusqu'à ces jours 9 km de la voirie urbaine sur les 13 prévus. Cependant, la Fédération des entreprises du Congo a déploré la lenteur dans l'exécution des travaux par l'entreprise Safricas qui avait gagné les marchés. Dans les nouveaux contrats, les deux parties se sont engagées à faire les suivis pour une meilleure exécution de ces projets qui prévoient également la construction des infrastructures socio-économiques d'intérêt communautaire. Il s'agit entre autres de la réhabilitation d'écoles, des structures sanitaires en cas de sinistre et des routes de dessertes agricoles dans l'ensemble de la province. C'est là dans le but de contribuer au développement de cette province et soutenir les efforts du gouvernement pour le bien-être de sa population. Signalons que les prix d'un litre de carburant à la pompe est majoré de 300 francs congolais par rapport à la stricteur officielle du prix pour couvrir cette taxe conventionnelle supportée par la population. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Une équipe de l'Agence nationale de promotion des exportations, ANAPEX, est à Kananga pour identifier et accompagner les opérateurs économiques, surtout ceux évoluant dans le secteur agricole. Devant la presse, le directeur de développement des produits et assistance technique a indiqué que cet établissement public a le souci de faciliter l'exportation des produits locaux et d'identifier les difficultés qui bloquent l'élan de la production jusqu'à l'exportation. Titi Nsumbu a souligné que tous les producteurs seront accompagnés par son agence selon leurs besoins et leurs tâches. Ces propos sont recueillis par François Kadima.
Nous suivons les produits de la production jusqu'à l'exportation. Ça nous intéresse. L'État nous donne la possibilité d'intensifier les échanges entre le Congo et les autres pays du monde. On nous donne cette responsabilité de veiller à ce que le commerce de la RDC, la balance commerciale du Congo, soit de plus en plus une balance à peu près réaliste. Nous ciblons des marchés par rapport à nos produits sélectionnés ici au pays. Par exemple, quels sont les ananas du Kananga? Nous savons quel marché préfère les ananas du Kananga. Les manioc du Kananga, nous savons quel marché et quels sont les avantages qu'on peut en tirer. Nous ciblons les marchés, nous donnons les informations aux opérateurs économiques sur ces différents marchés. Nous capacitons les opérateurs économiques. Nous leur donnons toutes les informations qu'il faut pour qu'ils soient compétitifs. Les informations sur la qualité du produit, les informations sur l'emballage, sur l'empaquetage, sur l'étiquetage, les informations sur la certification des produits, les informations sur tout ce qui peut faire en sorte que les produits soient compétitifs à l'échelle internationale.
Dans le territoire de Beni, au Nord Kivu, le village de Samboko, à près de 60 kilomètres de la ville de Beni, renaît petit à petit, malgré certains défis qui restent encore à relever. L'amélioration de la situation sécuritaire est le fruit de la collaboration entre les FARDC et la MONUSCO, ce qui a permis le retour des habitants dans ce coin, jadis théâtre des attaques des rebelles des ADF. Cette assurance a été révélée lors d'un échange entre la MONUSCO et les leaders locaux le mardi 29 octobre. Guylaine Kassassia.
Sur place à Samboko, c'est la vie qui a repris son cours normal. Les habitants qui avaient fui le milieu en 2018 y sont retournés depuis 2 ans et les activités socio-économiques s'y déroulent plutôt normalement, parfois jusqu'à des heures tardives grâce aux lampadaires installés par la MONUSCO, comme l'explique Gustave Mboussa Mutunga, le président de la société civile locale.
Depuis que la MONUSCO nous avait installé ces lampadaires, la population commence à circuler librement. Avant, nous vivions beaucoup plus de peur meurent dans ces villages à cause des rebelles ADF qui attaquaient régulièrement ces villages. Mais c'est grâce à Salam Bader que l'on peut apercevoir quelqu'un. Et s'il s'agit d'un ennemi, on peut facilement l'identifier. Et même les femmes commerçantes étalent leurs articles, même jusqu'à 18h, voire même 19h. En tout cas, nous, habitants de Samboko, nous ne pouvons pas tenir un mauvais langage contre la MONUSCO parce que nous vivons en franche collaboration.
Deux ans après, le village de Samboko est confronté à plusieurs difficultés, conséquences de la présence des rebelles ADF. C'est par exemple les infrastructures scolaires, sanitaires et routières qui manquent ici. Beni Gulen Kassassia, Radio Okapi.
Retour en Ituri, les déplacés de Roé dans le territoire de Djougou vivent dans des conditions difficiles. Ils demandent à la MONUSCO de mobiliser des partenaires humanitaires pour leur venir en aide. Ils ont adressé leurs doléances à une équipe de la MONUSCO qui s'est rendue la semaine dernière dans la zone. Selon leurs responsables, plus de 9000 abris en bâche construits dans ce site sont déjà vétustes. Les installations hygiéniques sont également hors d'usage, ce qui accentue la vulnérabilité de ces personnes déplacées, abandonnées à leur triste sort. Ézéchiel Mouzalia.
Selon les gestionnaires de ces sites qui hébergent des milliers de familles, les conditions hygiéniques sont insuffisantes et dans un mauvais état. Une porte de latrine dessert en moyenne 100 personnes, d'autres complètement bouchées et dégagent une odeur insupportable. À cela s'ajoute le problème d'abris construits en bâche qui laissent traverser les eaux à chaque tombée de la pluie. Ces déplacés demandent à la MONUSCO de mobiliser ses partenaires pour leur venir en aide. Héritier Assimoué, secrétaire du site.
Nous avons besoin de 9018 abri à bâche qu'on doit doter parce que ça fait déjà 6 ans qu'on est derrière des bâches là qui ne sont pas réhabilitées. Et aussi longtemps qu'il pleuve, on a vraiment un réel souci. Nous avons aussi besoin de latrines et de douches. Nous avons les gaps de 13 000 sécateillés. La plupart de la finition sont déjà remplies et puis on n'a pas moyen de faire autrement. C'est vraiment un réel souci dans le cas. On a aussi besoin de la paille parce que le site là est vraiment très noir et puis c'est aussi déjà des sources pour le VBG dans le site.
La MONUSCO a promis de porter leurs doléances aux autorités compétentes. Le site des déplacés d'Euro compte à ce jour plus de 29 000 ménages. Bounia, Ézéchiel Mouzalia, Radio Okapi.
Un gouvernement provincial pour l'Équateur, la province n'en a pas depuis la réélection de son gouverneur Bobo Boloko le 25 mai dernier. La question a été au cœur du point de presse tenu le mardi à Kinshasa par le Comité national de la dynamique des jeunes engagés pour le changement de l'Équateur. Le bureau a exprimé son soutien au gouverneur de province réélu. Cependant, il recommande au gouverneur la nécessité de nommer à 70% dans le nouvel exécutif provincial des jeunes technocrates et non des partisans, en vue d'éviter la mauvaise gouvernance qui a caractérisé la précédente équipe. Pierre Etoza Mokala, porte-parole de la dynamique des jeunes engagés pour le changement de l'Équateur, précise au micro de Paul Richard Malengela.
La dynamique des jeunes leaders engagés pour le changement de l'Équateur a décidé de soutenir la province, de travailler pour le changement des mentalités, mais aussi de travailler pour éradiquer les conflits qui font stagner la province, les conflits qui font reculer la province au jour le jour. Et pour ce faire, la jeunesse équatorienne réunie autour de cette méga structure exige les quotas de 70% au sein du gouvernement provincial. Cette jeunesse rappelle à son excellence, monsieur le gouverneur de province, Bobo Boloko, la nécessité de nommer des jeunes technocrates au sein de son gouvernement pour éviter la gabegie financière, la criminalité financière, mais aussi pour éviter la mésgestion enregistrée lors du mandat passé à cause de l'amateurisme, mais également de la non-maîtrise des techniques technologiques de l'air.
Actualité internationale.
En Côte d'Ivoire, les associations syndicales d'élèves et d'étudiants n'auront plus leur place dans les établissements scolaires et universités. Le gouvernement a adopté un décret hier, le décret de dissolution de ces organisations. C'est pour préserver l'ordre, la sécurité publique et garantir durablement le calme dans les espaces éducatifs, a dit le porte-parole du gouvernement de la Côte d'Ivoire, Amadou Koulibaly, à l'issue du Conseil des ministres. La décision intervient alors que la violence au sein des universités a récemment atteint un point critique avec l'assassinat de deux membres de la Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, entre août et septembre dernier. Ces drames ont conduit à l'arrestation de plusieurs dirigeants de cette organisation, souvent accusés de régner d'une main de fer dans certains établissements scolaires et universitaires. L'action des autorités ne s'est pas arrêtée là. Une opération d'assainissement menée début octobre dans les universités a révélé en ces lieux un arsenal d'armes blanches utilisées pour commettre des crimes et semer le désordre sur les campus et même au-delà de la sphère universitaire.
L'invité.
C'est à partir de la zone de santé de Mbanzangungu que la RDC va introduire dans la vaccination de routine le vaccin anti-paludéen. Le coordonnateur provincial du programme national de lutte contre le paludisme, PNLP, au Congo central, est notre invité. Docteur Nono Koka s'entretient avec Nana Plurich-Mambou.
Docteur Nono Koka, bonjour. Que peut-on retenir au sujet de ces vaccins?
C'est un vaccin qu'on appelle les R21 matrice M. C'est un vaccin qui a été mis au point au niveau des Oxford et ce vaccin sera donné à chaque séance de vaccination pendant la routine. À partir de 6 mois, nous allons donner la première dose. Et à 7 mois, nous allons donner la deuxième dose. 8e mois, on va donner la troisième dose. Et l'enfant va revenir au 15e mois pour la quatrième dose. Nous allons donner ces vaccins en injection chez les enfants de moins de 10 ans.
À travers l'induction du vaccin contre le paludisme, le PNLP poursuit quel objectif?
Les objectifs ici, nous voulons à ce jour, comme nous le savons très bien, le paludisme reste la maladie qui tue plus dans ces pays, mais où il y a aussi beaucoup de cas avec des formes graves. Et la RDC reste le deuxième pays au monde. Et donc, ce vaccin vient contribuer dans le cadre des préventions pour réduire sensiblement le nombre d'épisodes que l'enfant peut faire en termes de cas, mais aussi éviter que l'enfant puisse faire des formes graves du paludisme, mais aussi ça va nous amener à réduire sensiblement les cas de décès dits au paludisme.
Maintenant que nous avons les vaccins contre le paludisme, on peut baisser la garde face au paludisme?
Je dirais non. Nous devons continuer à dormir sous moustiquaire. Nous devons continuer à prévenir les désherbages ou la propriété dans nos parcelles. Nous devons continuer les autres interventions telles que la chimio-prévention du paludisme pérenne. Les pharmaciens doivent continuer à prendre leur SP ou Fancidar. Et donc, nous devons continuer tout ce qui est intervention de prévention. Et là-dedans, les vaccins viennent s'ajouter pour nous aider à lutter efficacement contre le paludisme.
Le paludisme ne concerne pas que les enfants de moins de 10 ans, qui est actuellement votre cible principale. Mais pourquoi n'avez-vous choisi que cette tranche d'âge-là?
Oui, vous avez raison. Les vaccins peuvent être donnés même chez les adultes, mais la situation actuelle par rapport à ces vaccins, il faut comprendre d'abord les enfants de moins de 2 ans ou les enfants de moins de 5 ans. C'est vraiment la tranche d'âge où on trouve plus de formes graves. Déjà, les enfants de moins de 5 ans constituent pratiquement les 49% des cas de paludisme dans notre pays, ou près de 50%. Et donc, cette tranche d'âge, ils évoluent vers les formes graves rapidement et c'est là où on trouve plus de décès. Et près de 70% des décès dits au paludisme, ça provient chez les enfants de moins de 5 ans, plus précisément chez les enfants de moins de 2 ans.
Pourquoi avoir choisi la province du Congo central pour lancer ces vaccins?
Les raisons est que nous introduisons au Congo central, c'est parce que le Congo central, c'est parmi les provinces avec le nombre élevé de cas, mais aussi avec impact élevé, autrement appelé HBHI. Et donc, c'est parmi les 10 provinces de la RDC avec des cas élevés, avec impact élevé. Et vous allez comprendre que le Congo central, on a eu beaucoup de décès dits au paludisme, mais ça représente à travers le pays près de 9%. Et donc c'est énorme, c'est les 26 provinces. Et donc, en dehors de ces mortalités, mobilité élevée, il y a aussi d'autres raisons. Le Congo central est tenté d'implémenter plusieurs interventions. Il faut dire que le Congo central a distribué la moustiquaire en décembre 2023, des nouvelles moustiquaires avec des insecticides qu'on appelle les PBO et les IGD. Ce sont des insecticides de deuxième génération. En dehors de ça, nous avons d'autres interventions telles que la chimio-prévention du paludisme pérenne chez les nourrissons. Et donc, ce sont des interventions qu'on est en train d'implémenter. Et nous voulons voir dans l'arsenal de toutes ces interventions de prévention, essayer de mettre ça tous ensemble pour que nous puissions arriver à réduire ou au finish éliminer le paludisme au Congo central.
Le message, c'est quoi que vous pouvez adresser à la population?
Le message, nous demandons à toute personne qui a des enfants à la maison de moins de 2 ans, nous leur demandons d'amener les enfants à la vaccination des routines, comme on donne pour d'autres vaccins. Ça va permettre à ces enfants de ne pas faire des paludismes en répétition, mais aussi de ne pas faire des formes graves du paludisme, et ça va nous permettre à réduire sensiblement le décès dû au paludisme chez les enfants de moins de 2 ans.
Docteur Nonokoka, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le responsable du programme national de lutte contre le paludisme. Je vous remercie.
Ok, merci.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.